France Culture.
Reprenez vos places, les midis continuent. Tout à l'heure, on parlera de Cyrano avec mon invité Jacques Weber. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les étudiants en cinéma ne sont plus capables de regarder un film jusqu'au bout. C'est le titre d'un article à lire dans Courrier International tiré d'une enquête du journal The Atlantic. On y apprend que depuis la pandémie, les professeurs doivent adapter leurs cours pour pallier à ce déficit d'attention, car nombre d'étudiants refusent désormais les projections en présentiel ou sont incapables de regarder un film sans regarder leur téléphone en même temps. Une attention intermittente, donc, qui n'est pas sans conséquence sur l'écriture des films à venir. Yves Citon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris 8. Vous avez travaillé sur notre régime d'attention et publié au Seuil, notamment, un essai qui s'intitule « Pour une écologie de l'attention ». Alors, l'article que j'évoquais, que l'on peut lire dans Courrier International, évoque que les jeunes adultes passent en moyenne 5 heures par jour à enchaîner des vidéos courtes durant leur adolescence, qu'ils changent d'onglet toutes les 47 secondes. En comparaison, en 2004, ils changeaient d'onglet toutes les 2 minutes et demie. Est-ce que cette transformation des habitudes a créé, selon vous, une incompatibilité avec la réception des formats longs?
Oui, donc on peut prendre votre question à plein de niveaux. Un premier niveau, ça serait justement une question, peut-être qu'on peut parler de rythmologie. Il y a toute une étude qui porte sur les rythmes. Il y a un site en France qui s'appelle Rhythmos de Pascal Michon qui nous donne plein d'informations là-dessus. Et là, ça converge effectivement à dire que ce soit les rythmes de montage dans les films qu'on voit au cinéma, en série, etc. Et là, le changer d'application ou de fenêtre, effectivement, ça a l'air de s'accélérer. Et on comprend un petit peu pourquoi, parce que peut-être il y a une très grande diversité d'offres qui nous viennent, il y a une sorte de pression qui est mise sur nous pour ne pas rater un certain nombre de choses. La peur, FOMO, la peur de rater quelque chose, elle est à la fois, on pourrait l'attribuer à une sorte de curiosité interne, puis là on peut se dire, ah ça a toujours été comme ça, les humains ont toujours été curieux, mais on est pris dans des conditions médiatiques, des appareils de perception et des systèmes de motivation, je dirais, qui nous pousse à certains comportements. Et donc la question pour moi, c'est pas tellement ce que font les jeunes, que d'abord il faudrait se demander ce que font les vieux aussi. Et là on sait que l'addiction aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'études qui viennent pour dire que c'est tout autant les gens de 50 ou 60 ans comme moi que les petits jeunes qu'on a toujours tendance à blâmer pour leur distraction. Mais pour moi la question, ça se place plutôt au niveau des systèmes de motivation dans lesquels nous sommes tous plongés.
Alors, dans cet article, on apprend que les professeurs essaient de trouver des solutions pour que les étudiants, et notamment les étudiants en cinéma, puisque c'est l'objet de l'enquête, puissent visionner des films en entier. Et en fait, ils trouvent des moyens, par exemple, ils leur permettent de regarder les films en streaming et non plus dans la salle, ce qui fait que l'étudiant en question peut s'arrêter plusieurs fois, voire ne pas finir le film. Est-ce que face à cette réalité, il faut adopter une position d'exigence d'attention selon vous? Comment faire, en fait?
Alors moi, je crois que dans ce domaine-là, ni vraiment la censure, ni la contrainte ne sont vraiment efficaces. Parce que je crois qu'on sait, moi je joue pas aux jeux vidéo, mais je crois qu'on sait tous qu'il y a des gens, en particulier ces jeunes qu'on blâme toujours pour leur distraction, qui arrivent à passer des heures sur des jeux vidéo où ils sont relativement concentrés. Alors moi, j'ai pas cette expérience, donc je sais pas, peut-être qu'en même temps, ils lisent un livre et peut-être qu'en même temps, ils font du WhatsApp, ça je sais pas. Mais ce qu'on dit habituellement, c'est que la faculté de concentration sur quelque chose qui arrive à attirer et à retenir notre attention comme un jeu vidéo, ça n'a pas complètement disparu. Donc, ça repose la question, qu'est-ce que ces professeurs, quel est le cadre pédagogique qu'ont ces professeurs, qu'est-ce qu'on demande de lire? Et là, moi, je ne suis pas enseignant de cinéma, mais je suis enseignant de littérature, et je sais que, alors à la fois je m'en plains, parce que j'aimerais bien pouvoir donner à mes étudiants des lectures de plusieurs dizaines ou centaines de pages, et qu'ils aient très envie de le lire, et qu'ils trouvent le temps de le lire, je sais que c'est pour la plupart, parce qu'il y a plein d'étudiants différents, pas le cas. Donc là, on se demande pourquoi, et le pourquoi, il y a le fait que quand moi j'étais étudiant, j'avais beaucoup de temps libre parce que je bossais un tout petit peu et j'avais des revenus avec ces petits remplacements qui me permettaient d'avoir du temps libre, que la plupart de mes étudiants, ils doivent avoir un boulot alimentaire et donc ils volent le temps pour pouvoir faire des lectures, que par ailleurs, ils ont ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir des sortes d'habitudes d'usage et des habitudes de motivation et d'utilisation des appareils médiatiques qui les poussent à attendre que les choses bougent rapidement quand on voit un film, à peut-être aller beaucoup plus vite sur un texte parce que ça les, peut-être que ce que je leur propose aussi n'est pas aussi intéressant qu'un jeu vidéo. Et là, ça nous pose des questions à nous de comment revoir la pédagogie. Une des choses auxquelles on arrive, et particulièrement en licence, c'est moins vrai en master, etc., mais se dire peut-être que le temps de lecture, il peut être fait ensemble en classe. Et au moins de se dire, vu que tout le monde bosse et peu de gens ont vraiment du temps pour lire, on propose des lectures, ceux qui peuvent et qui veulent les font, et puis les autres, on se dit qu'il faut intégrer ça dans le temps de classe. Et c'est une autre façon d'enseigner qu'on peut regretter. Moi, je regrette plein de choses. En même temps, je crois qu'il faut s'adapter aussi aux contraintes qui, de nouveau, ne sont pas le fait d'une mauvaise volonté de la part des étudiants, mais de ce que j'appelais tout à l'heure des systèmes de motivation dans lesquels nous et eux sommes pris. De même que maintenant, les questions que vous me posez, il faudrait au moins 3 heures pour pouvoir les déplier. Et là, ben voilà, on a 5 minutes, 7 minutes, et on se débrouille pour aller vite, pour dire un certain nombre de choses. C'est pas la faute de France Culture, c'est pas votre faute, c'est pas ma faute, c'est des contraintes.
Mais alors justement, ce déficit d'attention, il a également des conséquences esthétiques. Dans ce fameux article, par exemple, il cite Matt Damon, hein, qui explique que dans un film qui tourne pour Netflix, le réalisateur lui explique qu'il faut répéter 3 ou 4 fois l'intrigue, en fait, de façon très régulière pour que les spectateurs puissent continuer à suivre. Ça, c'est une conséquence artistique.
Ouais, c'est une adaptation de certaines formes artistiques que là je qualifierais quand même de commerciales à certains besoins des marchés et des attentes. Et là, on pourrait comparer ça ou contraster ça avec, là, je me suis désolé, j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il y a une chaîne de télévision en Scandinavie qui montre des plans fixes du Grand Nord pendant la migration de, je crois que c'est des élans ou des... Et il se passe rien, c'est juste des plans fixes avec des rivières. De temps en temps, il y a un élan qui croise la chose et apparemment, il y a tout un public qui regarde ces scènes où il se passe rien et qui essaye de... Voilà, on ne sait pas très bien pourquoi ils regardent ça. Donc d'abord, il y a la diversité des publics et massivement, les choses s'accélèrent, oui, mais il y a des petits espaces qui ont besoin d'autre chose. Alors, des grands espaces comme les jeux vidéo ou cette espèce de chaîne bizarre. Et après, pour moi, le vrai problème là derrière, c'est alors la marchandisation de l'attention, le fait que tout ce qui arrive sur nos écrans, ou presque tout, parce qu'il ne faut pas être trop simpliste, mais presque tout ce qui arrive sur nos écrans est filtré par des plateformes, que ces plateformes, elles sont régies par des régimes de compétition capitaliste et elles sont nourries par la marchandisation de l'attention. Et cette marchandisation de l'attention, non seulement elle capte notre attention, mais là, il y a un livre qui va sortir en mai à la découverte qui s'appelle « Attensité, un manifeste pour le mouvement de libération de l'attention » qui parle de fracking attentionnel, hein, de fracturation de notre attention. Pas seulement on capte notre attention parce que de toute façon, on est curieux, donc on va regarder des choses, mais de même que la fracturation hydraulique, on met à haute pression de l'eau pour casser la roche, le régime du capitalisme de plateforme qui marchandise notre attention doit la sortir à tout prix et donc fracture, y compris fracture notre temps attentionnel, nos habitudes, par exemple de contemplation, etc., parce que pour des logiques purement commerciales et capitalistes. Donc moi, je blâmerais ni les technologies en elles-mêmes, qui sont merveilleuses, ni les étudiants qui font ce qu'ils peuvent dans un monde de compétition et de fracturation, mais plutôt justement d'élargir le débat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ce capitalisme de plateforme.
Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine interview peut-être, ce quoi faire. Merci beaucoup en tout cas, Yves Citon.
Merci Marie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le chanteur Bad Bunny a offert hier soir un spectacle aux accents très politiques lors de la mi-temps du Super Bowl.
Oui, la finale du championnat de football américain a été suivie cette année par 130 millions de téléspectateurs et pour la première fois, le concert de la mi-temps a été chanté en espagnol par la star portoricaine Bad Bunny. Dans un décor reproduisant les ruelles de Porto Rico, le chanteur a livré un show politique. Il a fait référence aux violences commises par les agents de l'ICE, à la gentrification d'Hawaï ou encore au manque d'investissement de la part des États-Unis sur l'île de Porto Rico, un spectacle qui s'est terminé par un défilé de drapeaux avec le message « Tous ensemble, nous sommes l'Amérique » inscrit sur un ballon de football américain. Une performance qui n'aura pas été du goût du président Donald Trump qui a déclaré, je le cite, « Le spectacle de la mi-temps est absolument épouvantable, c'est une insulte à la grandeur de l'Amérique et il ne représente en rien nos valeurs de réussite, de créativité et d'excellence ».
Et pour finir, Marie, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand s'est terminé ce week-end.
Oui, lors de la cérémonie de clôture, le jury du festival a décerné son grand prix international au réalisateur haïtien Samuel Suffrène pour son film Cœur bleu, tandis que le grand prix national a été attribué à Intersecting Memory de la cinéaste palestinienne Sheima Awadeh. 139 courts-métrages étaient en compétition pour cette 48e édition qui aura attiré près de 170 000 spectateurs.
Merci Marie, oui. On se retrouve demain,
à demain
pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.